Alors, je reviens à notre série dans Galates. La semaine dernière, on a vu ensemble dans Galates que Paul nous dit que la bonne nouvelle de la grâce, l'évangile, le mot évangile, ça veut dire une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la grâce, ce n'est pas quelque chose qui se découvre à tâtons. Tu ne peux pas découvrir ça juste en fermant les yeux. Vous vous rappelez de mon illustration avec l'âne, la queue de l'âne, le vieux jeu, là? Il faut que tu ailles mettre la queue de l'âne au bon endroit sur un tableau, tout ça. J'ai une autre illustration pour vous. Vous arrivez chez moi, puis je vous invite à rentrer chez moi. Je te dis, regarde, je vais arriver un petit peu en retard, tu pourras rentrer d'avance, tu sais. Mais chez moi, pour rentrer, ce qu'il y aurait, ce serait une serrure à code. Avec un code, ça te prend un chiffre, tu sais. Puis je te dis, écoute, tu arrives quand tu veux, tu rentres, tu t'installes, il n'y a pas de problème, je te donne pas le code, tu le trouveras toi-même. À tâtons, ça peut être long, tu comprends? Tu ne veux pas être en hiver à moins 30, d'accord? Tu espères que c'est plus confortable. Donc, comment est-ce que tu vas rentrer chez nous? Il va falloir que je te fasse connaître le code. Il va falloir que je te révèle le code. Et c'est ça qu'on a vu la semaine dernière. L'Évangile ne se trouve pas à tâtons. Paul a reçu de Jésus-Christ une révélation de quelque chose qui est impossible pour nous de trouver par nous-mêmes. Et ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que ce code-là est suffisant. Jésus-Christ est suffisant. Pour rester dans mon illustration, je vous donne le code pour rentrer chez nous, vous arrivez d'avance, mais vous êtes des créatifs, tu sais. Vous êtes comme, il faut que je mette ma touche. Fait qu'Yannick m'a donné le code, c'est ces cinq chiffres-là, mais moi j'ai le goût de mettre ma touche là-dessus, je vais rajouter un chiffre. Ça m'en prend juste un plus, c'est ma saveur à moi. Si tu veux, mais tu vas rester dehors. Tu comprends-tu? Tu rentreras jamais. Parce que le code est suffisant. Jésus-Christ est suffisant. C'est le code qui suffit pour toucher à la grâce de Dieu. On va prier ensemble. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, avec un cœur reconnaissant pour cette belle planète où tu nous as placés. Seigneur, encore cette semaine, je marchais un matin au parc, j'ai croisé 12 chevreuils, Seigneur. J'avais un beau boc qui s'est arrêté et qui me regardait. Ça me demandait si j'allais sauter dessus. Seigneur, je te louais pour ta création. Et Seigneur, on veut te prier pour ces enjeux qui sont énormes, qui sont gros, qui sont complexes, Seigneur, qui deviennent émotifs, Père. Puis on te prie de nous aider, nous, à trouver comment être des agents de paix, des agents de conversation dans ces situations-là, Seigneur. On te demande de nous instruire, nous, pour être des intendants responsables, Père, sur cette belle planète où tu nous as placés. Et Seigneur, ce matin, on veut mettre de côté ces enjeux un instant pour revenir à l'enjeu essentiel qui est la grâce de Jésus-Christ, l'Évangile, Seigneur. Je te prie, Père, de venir parler à nos cœurs de la beauté de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour nous, Seigneur. Et viens nous convaincre, dans ta bonté, que Jésus-Christ est suffisant. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
La lecture de ce matin est tirée de l'Épître aux Galates, au chapitre 2, les versets 1 à 10. Je vais lire la nouvelle édition Genève. Galates, chapitre 2, versets 1 à 10. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux frères, qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'était accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire.
Merci Stéphane. Jésus-Christ est suffisant. C'est le code qui suffit pour avoir la grâce. Puis si j'ajoute quelque chose, je suis en train de perdre la bonne nouvelle. Mais c'est difficile de vivre sous la grâce. C'est comme malaisant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'illustration la semaine dernière avec le gaucher puis le droitier. Je disais c'est comme si par nature on est droitier, puis en ce sens que on veut par nous-mêmes rentrer dans les faveurs de Dieu, dans les bonnes grâces de Dieu. Toutes les religions de la terre te proposent des moyens de plaire à Dieu, de te justifier devant Dieu à travers des choses que tu vas faire. Et Paul était dans ce système-là où il connaissait tous les gestes à faire pour dire « Moi, je suis sûr que je suis dans les bonnes grâces de Dieu. » Puis, paf, Jésus-Christ lui apparaît puis il dit « Non, c'est pas ça. » Il y a quelque chose de fondamental qui était là dans l'Ancien Testament, c'est la notion de la grâce. Le salut est un don que Dieu nous fait. C'est une grâce que Dieu nous fait. Vous vous rappelez l'autre illustration, j'ai dit, lorsque tu trouves un nouvel emploi, puis tu as voulu cet emploi-là ardemment, puis tu es reconnaissant d'avoir ce travail-là, c'est quoi ton réflexe? C'est que tu vas vouloir comme entrer dans les bonnes grâces de ton employeur. Tu vas vouloir performer pour ton employeur. Tu ne vas pas juste le voir en lui disant tous les jours, « Merci, 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 merci. » À un moment donné, il va dire, « Va travailler, tu sais. » Puis là, tu veux bien travailler pour être dans ses bonnes grâces. Mais là, lorsque tu arrives dans l'Évangile, lorsque tu arrives dans les Écritures, quand tu arrives avec Dieu, la notion de la grâce, c'est que tu ne peux pas entrer dans les bonnes grâces de Dieu. La grâce t'est donnée. Et on est tous des droitiers qui découvrons la grâce. Puis là, j'ai eu un anévrisme au cerveau. Je ne peux plus travailler de la main droite. Il faut que je travaille de la main gauche. Puis c'est malaisant, cette affaire-là. La grâce est malaisante pour nous parce qu'on a le réflexe de vouloir comme « qu'est-ce que je peux faire pour être dans les bonnes grâces de Dieu? » Puis là, Dieu dit « tu ne peux rien faire. Faut que tu acceptes que tu es sauvé par grâce. Faut que tu t'abandonnes à ma grâce. » Essaie pas d'ajouter quelque chose au code, tu vas le bousiller. C'est juste la grâce. Et toute notre vie chrétienne, on apprend à fonctionner comme des gauchers qui ont été droitiers toute leur vie. Puis on apprend à vivre sous la grâce de Dieu. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ce matin, on va voir que Jésus-Christ seul est notre liberté. Jésus-Christ seul est notre liberté et tout ce qu'on y ajoute n'est plus une bonne nouvelle. L'évangile, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Tout ce que j'ajoute à Jésus-Christ vient bousiller l'évangile. Tout ce que j'ajoute à Jésus-Christ fait que ce n'est plus une bonne nouvelle. Christ seul est notre liberté. Pour se mettre dans le contexte, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on retrouve Paul à cet endroit-là dans Galates? Bien, Paul, au début de notre passage, au verset 1, dit « 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem ». Alors, juste pour se remettre dans le contexte, Paul était un juif extrêmement zélé. C'était un juif hyper appliqué. Aujourd'hui, on dirait que c'est un juif intégriste, pratiquement. Parce que son zèle le menait même à dire, écoutez, il y a une secte juive qui est sortie des Juifs qui disent que Jésus de Nazareth, c'est le Messie qu'on attend depuis toujours dans l'Ancien Testament. Et puis ça, c'est pas vrai. Fait que moi, ce que je vais faire, donnez-moi des lettres, je vais aller partout où cette secte chrétienne-là est en train de se former, puis je vais aller arracher ces gens-là, je vais les livrer aux autorités, on va les mettre à mort, on va s'en débarrasser. Je vous dis, intègre, intégriste, OK? Il était vraiment dedans. Là, l'apôtre Paul est convaincu que c'est ça la vérité. Il est vraiment zélé pour Dieu. Il y a un zèle pour Dieu, il y a un zèle pour la parole. Il nous dit, j'étais intègre dans cette démarche-là. Puis un jour, Christ lui apparaît, Jésus-Christ lui apparaît. Puis il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, mon homme? Catastrophe! Le Dieu que tu essaies de servir, c'est celui que tu persécutes. Le Messie que tu attends, c'est celui que tu es en train de persécuter en persécutant ses disciples. Puis là, l'apôtre Paul découvre la grâce. Il comprend qu'on est sauvé par grâce. Fait que le gars, du jour au lendemain, il devient le prédicateur du message qu'il persécutait avant. Avec le même zèle qu'il avait pour défendre la loi puis attaquer les chrétiens, il se met à prêcher l'Évangile puis défendre les chrétiens. Personne n'y comprend rien, mais lui, il est là, il est zélé, puis pendant 14 ans, il va annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Puis des centaines de personnes vont venir à croire en Jésus-Christ. Des Juifs vont devenir des Juifs chrétiens. Des non-Juifs vont devenir des chrétiens. Ils vont se convertir. Puis Paul annonce la grâce, la liberté. Mais là, progressivement, il rencontre une certaine résistance, même dans l'Église. Parce qu'il y a des Juifs qui ont cru que Jésus est vraiment, Jésus de Nazareth, c'est vraiment le Messie qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Mais ils disent, bon, OK, c'est vraiment le Messie. Fait que là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, puis on comprend même que ce message-là s'adresse aussi aux non-Juifs. Donc, on va aller avec toi annoncer ce message-là, cette bonne nouvelle-là aux non-Juifs. Ils vont devenir Juifs, puis après ça, ils vont croire en Jésus, ou simultanément la patente. On va les judaïser pour les christianiser. Il faut qu'ils deviennent juifs pour être chrétiens parce que nous, c'est comme ça qu'on a connu Dieu. On pratique les traditions juives, puis là, on découvre que ces traditions-là, la parole particulièrement, annonçait Jésus le Messie. Bon, mais il faut que toute la gang passe par là, puis qu'ils deviennent ça. Puis là, Paul dit, non, ça ne fonctionne pas, vous ne comprenez pas. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est que les Juifs n'ont pas réussi à satisfaire la justice de Dieu avec la loi. On va y revenir plus loin, on va développer ça, c'est ce qu'il développe un peu plus loin dans Galates. Mais il dit, non, vous ne comprenez pas, il ne faut pas leur faire porter ce même fardeau-là pour qu'après ça, ils en soient libérés par la grâce. La grâce nous libère, nous donne la liberté du péché, la liberté même de la loi qui servait à nous montrer qu'on était pécheurs. Comme je vous dis, on va revenir sur ça. Puis Paul dit, non, ça ne va pas. Mais de plus en plus, il rencontre de l'opposition par des gens qui disent croire en Jésus-Christ, mais qui disent, si tu veux devenir chrétien, il va premièrement falloir que tu deviennes juif, mais ensuite, tu deviendras chrétien. Tu vas commencer par passer par toutes les traditions juives, puis ensuite de ça, tu pourras croire. Là, Paul, il dit, non, vous ne comprenez pas, ça dénature l'Évangile. On perd la bonne nouvelle si on ajoute quelque chose à Christ. Alors, ce que Paul fait, c'est qu'il se rend à Jérusalem pour aller voir s'il prêche exactement le même évangile que les apôtres à Jérusalem. Parce qu'il se dit, si les gars là-bas, qui ont vraiment l'assentiment, qui sont reconnus comme ceux qui étaient avec Jésus de son vivant sur la terre, se mettaient à dire, non, il faut que tout le monde devienne juif avant de devenir chrétien, il dit, là, tout mon travail est en vain, là. Ça ne marche pas du tout, là. Donc, il s'en va valider avec eux. Et c'est ça qu'il nous est dit dans les versets 1 et 2. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'Évangile, la bonne nouvelle que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier. Cette visite-là est un petit peu plus secrète. À ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Il veut être sûr que les gars là-bas présentent exactement. On s'entend, c'est ça la révélation, c'est ça l'Évangile. C'est ça qu'il s'en va faire à ce moment-là. Et quel est cet Évangile que Paul prêche? Bien, on a un résumé dans une autre lettre de Paul. Je vous le résume ici, dans 1 Corinthiens 15, et versets 3 à 7. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, ça avait été annoncé dans l'Ancien Testament, et qu'il est apparu à Pierre, aux Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, dont il est lui-même. » Ça, c'était l'Évangile qu'il annonçait. Mais il y avait ces Juifs qui se disaient chrétiens, qui disait reconnaître que Jésus, c'est vraiment le Messie, qui voulait en réalité que les non-Juifs qui se convertissent deviennent premièrement Juifs. Puis j'ai vraiment aimé cette image que Ray Ortlund utilise. Voici comment il a dit, « Jésus seul est suffisant pour rendre tous les pécheurs cachards. » Jésus seul est suffisant pour rendre tous les pécheurs kosher. Vous savez c'est quoi kasher? C'est la condition qui est nécessaire, le traitement fait à des aliments pour qu'un juif se sente libre de manger. Et donc, il y a des aliments, quand tu vas à l'épicerie, dans certaines épiceries, mais même un peu dans toutes les épiceries, surtout si c'est produit par des Juifs, tu vas voir un signe qui est là, puis tu sais que cet aliment-là a été préparé selon des règles juives. Et kasher, qu'est-ce que ça veut dire? C'est convenable, propice, apte. Je peux en manger parce que c'est kasher. Puis les Juifs qui avaient cru en Jésus disaient, si tu veux devenir cacher pour Dieu, il va falloir que tu pratiques les traditions juives. Et Paul dit, non, Jésus est suffisant pour que tu sois cacher. Je pense que Paul voulait tester ça. Il a décidé d'amener avec lui un serviteur, un chrétien qui était en fait un non-juif qui s'était converti, Tite qui était avec lui, un précieux serviteur. Tite était un non-juif qui est devenu chrétien et donc qu'on n'avait pas soumis à toutes les traditions juives. Or, une des traditions, c'est quoi? C'est quoi? La circoncision. Un grand esprit au bureau a dit cette semaine, je ne le nommerai pas, il a dit, il y en a qui voulaient qu'on en coupe un petit bout à titre. D'accord? Michel. Excuse-moi, Michel, je suis désolé. Bon, ceux qui ne l'ont pas compris, ça fait partie des leçons de Québécois ce matin, d'accord? Vous demanderez à un Québécois de vous traduire ça en français, je n'irai pas plus loin que ça. D'accord? Mais donc, Paul, il amène avec lui un non-juif. Puis il dit, je vais aller vérifier ça. Qu'est-ce que les gars vont faire? Est-ce que les gars vont dire, hey, attends un petit peu, wow, est-ce qu'il est circoncis celui-là? Parce que des juifs, c'était la marque chez l'homme qu'il était juif, d'être circoncis. On le faisait chez les enfants en bas âge, très bas âge. Est-ce qu'il est circoncis celui-là? Puis là, il dit, ils n'ont même pas demandé qu'il soit circoncis. C'est comme s'il y avait sa preuve avec lui. Quand je me suis converti, quand je suis devenu chrétien, j'aspirais au ministère, puis j'ai commencé à être formé, tout ça, puis je me souviens, M. Keefe, qui était un pasteur ici à l'église, qui est en fait un missionnaire qui venait de l'Ontario, à un certain moment donné, il retournait vers les églises là-bas qu'il supportait financièrement, puis il dit, « Esther, Yannick, est-ce que vous voudriez venir avec moi? » Je vais aller présenter un Québécois qui s'est converti puis qui s'en va dans le ministère pastoral. Il venait montrer les fruits de l'Évangile. Et c'est ce que Paul fait avec Tite. Puis Paul fait un petit test, il dit, est-ce qu'il va falloir le circoncire, celui-là? Et les apôtres disent non, pas nécessaire de le circoncire, parce que Tite était cacheur, juste avec la foi en Jésus-Christ. Seulement avec la foi en Jésus-Christ, il n'y avait pas besoin de passer par là. Puis ça nous fait penser un passage, ça m'a fait penser un passage dans Jérémie 4:4. On est dans l'Ancien Testament, puis Dieu va adresser le fait que la vraie circoncision, ce n'est pas la circoncision physique, c'est la circoncision du cœur. C'est-à-dire que la circoncision était un signe physique de ta consécration à Dieu. Voici ce que Dieu dit dans Jérémie 4:4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Dieu a toujours eu beaucoup plus à cœur la consécration du cœur que les signes extérieurs. Les signes extérieurs ont toujours été des éléments qui nous aidaient à penser à ce que Dieu veut dans notre cœur. Et donc, l'apôtre Paul va dire dans une autre de ses lettres, pour rester sur le thème inspirant de la circoncision, il dit dans Philippiens 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. » Donc, aux yeux de Paul, Tite était circoncis de cœur. Aux yeux de Paul, Tite était cacher devant Dieu. Il était kosher. Dieu l'admettait seulement à cause de l'œuvre de Christ, seulement à cause de sa foi en Christ. Ce ne sont pas des subtilités dont on parle ce matin. Ce sont des choses essentielles, des choses assez importantes pour que Paul ait mis sa vie en péril à plusieurs reprises pour les défendre, comme on va le voir un petit peu plus loin. Parce que Tite avait placé sa foi en Jésus-Christ, Tite était libre d'être en communion avec Dieu et il était libre d'être en communion avec la famille de Dieu, circoncis ou non. Et Paul va dire dans Galates 2 au verset 4, il va dire, « Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Paul dit, quand tu crois en Jésus-Christ, tu es libre de la condamnation, tu es libre du poids de tes péchés qui reposaient sur toi, tu es libre de cette loi qui servait fondamentalement à te diriger vers Dieu, mais à te condamner. Paul dit, tu es libre d'être en communion avec l'Église. Mais il dit, il y avait quelques faux frères qui venaient épier notre liberté dans le but de nous asservir, de nous ramener sous la loi. Ils voulaient nous faire porter et faire porter un fardeau aux non-juifs convertis qu'ils n'avaient pas à porter. Et Pierre dit, ça valait la peine de résister à cela. Comme on va le voir un tout petit peu plus loin, quand j'ajoute à ce que Christ a fait, je perds la bonne nouvelle. Et ça se passe à travers des sectes chrétiennes qui sortent du christianisme puis qui ajoutent à l'Évangile. Mais je viens à ça dans un instant. Ça se passe aussi simplement à travers ce réflexe que nous avons d'être droitiers plutôt que gauchers. Au lieu de s'appuyer dans la grâce, on s'appuie sur nos œuvres. Laissez-moi l'illustrer comme ceci. Quand tu deviens chrétien, on t'annonce l'Évangile, on t'annonce la grâce. Si tu deviens chrétien, c'est que tu saisis que tu es pécheur et Dieu veut te pardonner. Dieu veut te faire grâce, tu n'y arriveras pas par toi-même, ce n'est pas de gagner ton ciel, il veut te le donner. Ce que tu as à faire, c'est croire dans l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bingo, c'est super, ton cœur est soulagé. Là, tu te dis, bon, OK, si je veux grandir, on m'a dit que ce serait bien que j'aille à l'Église, fait que je vais aller à l'Église. Puis là, tu vas à l'Église. Puis là, tranquillement, tu te dis, OK, un chrétien, ça va à l'Église. Puis là, il y a une journée, tu dois manquer l'Église parce que tu travailles ou peu importe. Puis là, tu te sens coupable. Est-ce que vous voyez où je m'en vais? Puis là, on t'apprend aussi que ben un chrétien, tu sais, ça suit un plan de lecture, ça a l'air à l'Église de l'Espoir. Ils ont des plans de lecture, il faut lire la Bible. Le pasteur nous a dit que c'était vraiment bon de lire la Bible. Fait qu'un chrétien, ça lit la Bible. Puis un matin, tu ne lis pas ta Bible, tu te sens coupable. Puis là, tu continues à étudier les Écritures, puis là, on t'apprend ben un chrétien, c'est quelqu'un qui aime les gens. Puis là, tu n'aimes pas les gens comme il faut, fait que tu te sens coupable. Puis tranquillement, il y a une espèce d'association entre ta joie en Jésus-Christ puis toutes ces choses-là que tu dois performer. Et je vous le dis, vous n'êtes peut-être pas là, c'est à vous de voir, c'est à vous de mettre ça en prière, c'est à vous de jaser dans vos petits groupes, de jaser avec des frères et sœurs, mais peut-être que les bonnes choses de la vie chrétienne, fort utiles, essentielles, comme se joindre à une assemblée, lire les Écritures, progressivement, tu les as associées dans ton esprit avec plaire à Dieu, entrer dans les bonnes grâces de Dieu. Puis si tu n'arrives pas à faire un petit crochet dans toutes tes cases, tu as le sentiment de ne pas être dans les grâces de Dieu. Est-ce que vous voyez comment pratiquement au quotidien je peux perdre la joie de l'Évangile en faisant des fausses associations? Oui, si je néglige d'aller à l'Église, si je veux grandir, si je veux marcher selon Dieu, je vais me repentir de ça. Je veux dire, il faut que je me joigne à une assemblée, c'est important. Les chrétiens, c'est une vie communautaire, c'est pas une vie solitaire. Si je veux vraiment grandir, puis j'ai l'opportunité d'avoir une Bible, je veux lire la Bible, c'est toutes des choses excellentes. Mais il y a une association qui se fait. Je vous dis, on est des droitiers, on est des gens religieux par réflexe, puis on associe ça avec la grâce. Je vais me mettre dans les bonnes grâces de Dieu ce matin, je vais lire ma Bible. Non, tu es déjà dans les bonnes grâces de Dieu, parce que tu as cru en Jésus-Christ. Et tu vas lire ta Bible parce que tu veux entrer en communion davantage avec Dieu. Tu veux être plus près de Dieu, tu veux qu'il te parle, tu veux te remplir. Est-ce que vous me suivez? Fait que laissez-moi vous donner une illustration très personnelle. Je grandis dans ma vie chrétienne, j'avance, je lis les Écritures, j'apprends qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a été aimé de Dieu, donc qui aime les gens autour de lui. Fait que moi, je me dis, il faut que j'aime mon épouse, il faut que j'aime mes enfants. Mais on est tous un peu « messed up » à quelque part. Excusez l'anglicisme, on est tous un petit peu tout croche dans le cerveau. Hein? Moi, une des manières que ça s'exprime, c'est que personnellement, là, par réflexe, je me sens responsable du bonheur des gens autour de moi. Je pense comme ça par défaut. Je suis responsable du bonheur des gens autour de moi. Puis là, je lis dans les Écritures que je suis censé aimer les gens autour de moi. Là, dans ma tête, il y a une association qui se fait. Si les gens autour de moi ne sont pas heureux, peut-être que ça ne marche pas ma vie avec Dieu, peut-être que ça ne marche pas ma vie chrétienne, peut-être que je ne suis pas dans les grâces de Dieu. Puis je prends ce fardeau-là sur mes épaules. Puis là, un jour, j'ai un chrétien, un frère qui m'aime beaucoup, qui me dit, « Yannick, est-ce que tu penses que tu es responsable de leur bonheur? C'est ça que Dieu te dit? » Puis j'ai réalisé que c'est ça que je croyais. Il l'a dit, puis j'ai dit, mais oui, donc, c'est niaiseux. Je suis responsable de les aimer, mais je ne peux pas être responsable de leur bonheur. C'est entre eux et Dieu, c'est, je ne peux pas être responsable. Mais je n'ai même pas dit ça, parce que j'ai dit, tu veux que je te dise la vérité? Je vais dire ce que je pense, croire, puis je vais dire ce que je crois. Puis ce que je crois, c'est que je suis responsable de leur bonheur. Et je portais ce fardeau-là pour être dans les bonnes grâces de Dieu. Je suis responsable de leur bonheur parce que j'avais lu dans les Écritures que je suis responsable d'aimer les gens autour de moi. Et je n'étais pas capable de m'abandonner à la joie de la grâce, de dire « j'ai la faveur de Dieu, par conséquent, je veux aimer les gens autour de moi. Si je peux contribuer à leur bonheur, génial. Je ne peux pas être responsable de leur bonheur. Je n'ai pas apporté ce fardeau-là. » Et je prends le temps de vous donner cet exemple-là. Là, vous allez dire, aïe, c'est bien compliqué ton affaire. Oui, mais c'est parce que la parole est riche, puis quand elle vient s'appliquer dans nos vies, elle s'applique de manière différente dans chacune de nos vies. Pour toi, c'est peut-être ta performance au travail. Pour toi, c'est peut-être ta performance comme chrétien. Pour un autre, c'est d'autres choses. Il y a toutes sortes de choses, mais gardez à l'esprit qu'on a ce réflexe de vouloir redevenir des droitiers. Essayer de cocher des cases pour entrer dans les bonnes grâces de Dieu, alors qu'on devrait être des gauchers. C'est malaisant, mais abandonne-toi à la grâce de Dieu. Lève-toi le matin en te regardant dans le miroir et tu dis, « Yannick, tu as cru en Jésus-Christ. Tu as la faveur de Dieu. » Peut-être qu'aujourd'hui, il va te montrer des endroits où tu as péché, tu as attristé l'Esprit de Dieu, tu vas te repentir de ces choses-là. Dieu ne t'aime pas moins pour autant. Dieu t'aime parce que c'est en faveur de la grâce de Jésus-Christ qu'il t'aime. Pas en faveur de tes performances. Et donc, je ne sais pas comment ça s'applique dans votre vie, mais il n'y a personne ici qui est exclu de ce réflexe-là, de vouloir ajouter des performances, ajouter des choses à ce qui est complet en Jésus-Christ. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes kosher. Vous êtes convenable, apte à entrer dans la présence de Dieu. Et il n'y a rien que vous pouvez faire, y ajouter, qui va faire que vous allez l'être davantage. Et c'est à vous de chercher dans la prière, en jasant avec des amis, avec des frères et sœurs, dans les petits groupes, dire, comment ça se manifeste ça dans ma vie? Quand est-ce que je perds la joie de la grâce? Et est-ce que c'est ça qui est en train de se passer? Puis demandez à Dieu de vous montrer comment ça s'exprime dans votre vie, ces choses-là. Maintenant, ça implique quelque chose d'important, puis c'est la deuxième portion du passage avec Paul. Voici comment je le résume. Jésus-Christ plus quoi que ce soit égale rien. Plusieurs d'entre vous, vous vous rappelez du livre qu'on a utilisé, que je pense qu'on vend encore ici. Jésus plus rien égale tout. Jésus est suffisant. Mais si ça c'est vrai, le contraire ou l'autre formule est aussi vrai, Jésus plus quoi que ce soit égale rien. Jésus plus quoi que ce soit égale rien. Rappelez-vous de mon code, si tu ajoutes un chiffre, tu n'as plus le code. Tu l'as perdu. Paul dit au verset 5, « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. » Je vous lis une citation d'un des commentaires que j'aime bien pour étudier le livre aux Galates. « Aujourd'hui, il semblerait ridicule que quiconque insiste pour que tous les non-juifs soient circoncis avant de devenir chrétiens » ou de s'unir à l'Église. Toutefois, cette évolution historique ne doit pas nous faire oublier que si les termes du débat ont changé, aujourd'hui, ce n'est plus la question, là, est-ce qu'il faut que tu te fasses circoncire, ça s'en va ailleurs. La lutte de Paul pour la liberté chrétienne et la vérité de l'Évangile sont loin d'être un sujet mort, comme le montre le commentaire de Luther. Alors, Martin Luther, la grande réforme protestante, c'était encore ça la question qui était présente à ce moment-là. Les êtres humains essaient en permanence d'ajouter quelque chose à l'œuvre du salut de Dieu. Ce peut être Jésus-Christ plus la messe, Jésus-Christ plus le baptême d'eau, Jésus-Christ plus les bonnes œuvres, Jésus-Christ plus une expérience charismatique. L'argument de Paul est que rien... Absolument rien ne peut être ajouté ou mélangé avec Christ en tant que fondement de notre acceptation avec Dieu. Notre espoir est construit sur Jésus-Christ et rien d'autre. Absolument rien d'autre. Et nous avons ce beau privilège, cette belle responsabilité de protéger ce message-là de l'Évangile. Puis ce message-là va toujours être menacé. Parce que l'être humain est inconfortable avec la grâce. Par nature, nous ne sommes pas confortables avec la grâce. « Ah, tu m'as aimé, Dieu, maintenant je vais te dire merci en te prouvant que tu as vraiment bien fait de m'aimer. » Non, il m'a aimé à cause de ce que Christ a fait sur la croix. Et moi, j'ai saisi ça par la foi, puis je suis entré dans la grâce. Marcher dans la grâce, vivre dans la grâce, c'est inconfortable. Parce que par nature, même notre vieille nature veut nous ramener à cet endroit-là où on va ajouter des choses à l'Évangile. Et on a ce privilège-là, cette grâce-là de défendre cet Évangile. C'est un privilège. Paul y dit, nous ne leur cédâmes pas un instant. On leur a résisté afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, je suis chrétien, mais un chrétien, ben, ça se réunit, admettons, le samedi. Je suis chrétien, mais un chrétien, ça observe ça ici. Un chrétien, ça fait ça ici. Posez-leur la question, est-ce qu'il suffit de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ pour être chrétien? Là, peut-être qu'ils vont vous dire, oui, mais il faut quand même que ça paraisse dans ta vie. Amen, pas de problème. Si ma vie contredit le fait que je suis chrétien, j'ai probablement des choses à examiner dans ma vie. D'accord? L'évidence de l'œuvre de l'Esprit en moi, à quelque part, va se manifester. Pas parfaitement, mais ça va se manifester dans ma vie. Donc ça, c'est correct. Mais les « il faut que », tu dois. Regarde, chez nous, à notre église, on fait telle règle. C'est comme ça qu'on fonctionne. Si tu fais ça, tu es un chrétien. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas un chrétien. Et nous avons cette responsabilité de protéger l'intégrité de l'Évangile avec nos enfants. Parce que vos enfants, vous allez les amener à l'église, vous allez les aider à étudier la Bible, puis vous allez voir, ils vont enregistrer des choses que vous ne direz même pas. Ils vont dire, ah oui, OK, un chrétien, ça fait tout ça. Quand on va en Haïti, je pense que je l'ai déjà mentionné, c'est une illustration. Je demanderai aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Quand on va en Haïti, on jase avec des Haïtiens, puis au moins dans cette région-là, Haïti, c'est multiple aussi, mais en campagne, jase avec des Haïtiens, puis là, à un moment donné, je leur pose la question, est-ce que tu es chrétien? Non, je ne suis pas chrétien. OK, puis là, on parle des Écritures, tout ça, puis peut-être qu'il n'a pas tout compris l'Évangile, mais je pense que lui, dans le fond, il se dirait chrétien. Fait que je dis, pourquoi tu me dis que tu n'es pas chrétien? Ah, ben il dit, c'est parce que je ne suis pas baptisé. OK. Bon, OK, c'est vrai qu'un chrétien veut se faire baptiser, c'est correct. Mais pourquoi tu n'es pas baptisé? Parce que je ne suis pas marié. OK. Puis il vit avec une femme, puis ils ont des enfants. Puis je dis, pourquoi tu n'es pas marié? Ah, parce que ça coûte cher. J'ai pas les sous pour faire la célébration. Donc, la valeur d'une cérémonie de mariage demande d'être capable de la célébrer comme il faut. Alors, je vais vivre avec cette femme-là sans me marier, même si je veux que ce soit mon épouse. Puis le pasteur ne va pas me baptiser parce que on n'est pas marié, puis parce que je ne suis pas baptisé, je ne suis pas chrétien. Intéressant, hein? Des fois, quand on voyage, on va dans d'autres cultures, c'est comme s'il y a des choses, tu dis, bien, faites-vous-en pas. Dans la culture ici, il y en a plein de contradictions aussi. Et vos enfants vont faire des associations entre l'Évangile et comment un chrétien vit, puis ils vont en faire une loi. Et vous avez la responsabilité de leur prêcher l'Évangile de la grâce. Vos enfants devraient saisir que s'ils croient en Jésus-Christ seul, ils sont kosher. Ils n'ont pas besoin d'ajouter un autre chiffre sur le code pour rentrer. Ils ont déjà la liberté en Jésus-Christ. On va prier. Seigneur Jésus, ce matin, on veut vraiment t'adorer. Tu es suffisant, Seigneur. Tu nous as fait connaître l'Évangile de la grâce. Tu nous as fait connaître ton salut. Et ce matin, Seigneur, on veut t'adorer parce qu'en toi, nous avons tout. Je ne te connaissais pas, Seigneur, on m'avait parlé de toi, mais il a fallu que tu viennes parler à mon cœur par ton esprit pour que j'accepte cette grâce-là, Seigneur. Et je serai éternellement reconnaissant pour ta grâce, Seigneur. Tu es suffisant pour que je sois libre. J'aimerais te prier pour ceux qui, au milieu de nous ce matin, Seigneur, ont l'impression qu'il faut entrer dans les bonnes grâces de Dieu. Qu'il faut à quelque part mériter cette grâce-là. Entrer dans tes faveurs, Seigneur. Qu'à travers ce temps de louange, Seigneur, l'Évangile devienne limpide à leurs yeux et à leur cœur et qu'ils puissent s'abandonner à ta grâce, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.